Il est 19h, vous écoutez Campus et vous avez bien raison. D'ailleurs, tout de suite, vous embarquez à bord du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le sous-marin et nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité. Au programme ce soir, l'équipe subaquatique reçoit Rico et Nico du label MuseArt. Bonsoir messieurs.
Salut.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Merci de rien, c'est un plaisir. Et Octave, aujourd'hui, aura une double casquette. Bonsoir Octave.
Salut.
Voilà, tu es étudiant aux Beaux-Arts, tu as suivi le procès Bonne Maison à coups de traits de crayon et tu vas nous parler de ça avant, évidemment, de nous parler de cinéma, ta spécialité. Puis une fois n'est pas coutume, voilà, on commence par un reportage et c'est tout de suite.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et non, le reportage n'est pas signé Thibaut comme d'habitude, mais nous allons vous diffuser le travail de Sophia, élève de 3e, qui était en stage chez nous la semaine dernière.
L'école supérieure des Beaux-Arts regroupée sur 3 sites, Tours, Le Mans et Angers, accueille chaque année environ 600 élèves encadrés par plus de 100 professeurs. Nous avons voulu savoir ce que représentent les Beaux-Arts pour les étudiants angevins.
Ça représente énormément de possibilités de créer un réseau, d'échanger, de rencontrer des gens, de se cultiver, de se poser des questions de qu'est-ce que c'est d'entamer une recherche et d'essayer de la développer et tout ça.
C'est mon atelier, c'est mon travail, c'est mon futur job, donc c'est beaucoup de choses.
C'est, je pense, un des derniers, en dehors de la fac, un des derniers bastions d'études qui, d'un point de vue économique, ne servent à rien. Et c'est pour ça que c'est très très important les Beaux-Arts, puisque c'est là où tu peux trouver quelques fous furieux en dehors des facs de lettres, psycho, musicologie, études de l'histoire berbère, etc.
Ça représente une sorte de prisme, une prisme de chaque artiste à rendre compte d'une expérience de vie, en fait.
C'est vraiment particulier comme étude, parce que c'est limite égoïste, je trouve, un peu. C'est totalement égoïste. C'est vraiment des études où tu fais ce que tu veux faire. T'as rien imposé. C'est quand même génial.
Bah, une grande bande de potes qui essayent de faire des trucs cool.
Un pied dans le monde de l'art. Et ensuite, je sais pas si je vais continuer les Beaux-Arts, mais en tout cas, c'est un pied pour arriver à chercher, à trouver mon délire, en fait, de ce que j'ai envie de faire plus tard dans l'art.
Alors, Rico et Nico, pour vous, les Beaux-Arts, vous êtes extérieurs, hein, vous ne faites pas du tout partie de l'école. Ça représente quoi, pour vous, les Beaux-Arts, je sais pas, Nico?
Bah, pour moi, les Beaux-Arts, ouais, ça permet de... C'est une expression de soi, de ce qu'on représente. J'ai été élève un peu aux Beaux-Arts à Caen, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est un cursus à part, dans le sens où... Il n'y a pas de matière, c'est pas scolaire comme nous, on peut avoir l'habitude. Les DS sont complètement différents, les contrôles, c'est différent. Ouais, et ça permet de s'épanouir aussi culturellement et artistiquement, chose qu'on trouve très peu dans d'autres secteurs, dans d'autres filières, peut-être en design à la rigueur. Mais ouais, comme le disait le reportage, c'est des études à part pour moi.
Rigo, pour toi, l'image des Beaux-Arts, qu'est-ce que tu t'en fais? Tu t'en penses quoi?
Alors, pour moi, à première vue, quand on me parle de Beaux-Arts, j'imagine les personnes avec des cheveux longs, les personnes qu'on peut voir dans la rue avec des tenues un petit peu bizarres. Mais au final, je pense pas que ça soit ça. Je pense pas avoir autant de connaissances que Nicolas sur les Beaux-Arts, mais par contre, moi, l'art, ça me parle énormément, j'adore ça. Et je pense que c'est un cursus qui est hyper vaste, qui laisse vraiment place à son expression personnelle, ce que disait Nicolas, c'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais j'avais besoin de faire d'autres choses à côté. Donc j'ai pas pris cette direction, mais ça doit être un très beau cursus, ouais.
Alors comment ça, t'avais besoin de faire d'autres choses à côté?
Comment ça? C'est parce que j'ai commencé à faire un bac scientifique, je voulais faire des études en mathématiques, et je me suis vite rendu compte que j'avais de l'intérêt pour d'autres matières, comme le droit par exemple. Du coup, je suis parti en faculté de droit à Bordeaux. chose qui ne m'a pas spécialement plu. Donc j'ai arrêté ma faculté de droit et je me suis dirigé vers l'école de commerce. Je suis actuellement donc avec Nico à l'ESCA, école de commerce sur Angers. Et on a donc un cursus qui est assez varié puisqu'on étudie aussi bien le droit que la finance, que le management, que le marketing, toutes ces choses-là. Bien sûr, on n'a pas de cours par rapport à l'art, mais c'est des choses qu'on peut voir un petit peu à côté. Donc c'est un cursus qui me convient pour le moment. Ouais.
Thibaut, pour toi, les Beaux-Arts ?
Oh, les Beaux-Arts, j'ai failli y finir aussi il y a quelques années. Donc ouais, c'est plein de choses. Après, c'est un peu une auberge espagnole, quoi. Je pense qu'on vient... On vient y trouver ce qu'on y cherche aussi, et on peut en sortir avec plein de choses comme avec rien du tout, quoi. Donc c'est à chacun, je pense, d'aller au-delà des simples connaissances qu'on y apporte.
On revient juste après Skens et la chanson Anna. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus et avec nous dans le studio Rico et Nico du label Muse Art. Alors Muse Art, c'est la rencontre entre deux mondes, la techno et l'art. Si je résume bien, vous avez pour objectif de prouver la complémentarité entre les deux univers à travers des collaborations avec des artistes de la scène techno. Vous voulez en fait hisser le t-shirt au rang d'art. Première question, Rico, comment vous est venue cette idée ?
Alors, cette idée, ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus. J'ai toujours voulu monter un projet entrepreneuriat et il m'a fallu beaucoup de temps pour me décider de mettre en place tout ça. Ma passion depuis que je suis tout petit, bien sûr, ça a toujours été la musique. Je suis passé par beaucoup de styles musicaux différents, que ce soit le rock, le blues, que ce soit le hip-hop, le grunge, un petit peu tout. Et j'ai découvert il y a 4 ans la techno. Ça a été vraiment une super rencontre, la techno, et je me suis très rapidement dit qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dedans. Donc cette idée m'est venue, comme je l'ai dit, il y a quelques années. J'ai un petit peu creusé, j'ai passé quelques mois à Paris, histoire de pouvoir rencontrer la scène techno française, creuser un petit peu, aller de soirée en soirée, de festival en festival, voir un petit peu le manque qu'il y avait dans ce milieu-là, le besoin que les artistes pouvaient avoir. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé également. Et de plus en plus, on se rend compte que des artistes techno, que ce soit des artistes, des DJ, des collectifs, des labels ou des clubs, font appel à des prestations extérieures pour pouvoir régler toute la question artistique de leurs prestations. Et on s'est dit, pourquoi pas avoir un label qui pourrait regrouper tout ça au sein d'une même structure et qui pourrait proposer donc aussi bien de l'art que de la musique dans cette même structure. Donc j'ai essayé de creuser un petit peu de ce côté-là, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Muse Art, musique et art, regrouper les deux sur un même label.
Thibaut ?
Vous vous êtes appuyé sur les relations qu'on trouve déjà entre l'univers du graphisme et l'univers de l'électro pour lancer ça ?
Il y a une tendance de plus en plus à la techno. On a pu se rendre compte que depuis 2-3 ans, la techno connaît une vague presque plus grosse que celle qu'elle avait pu connaître il y a quelques années. C'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui commence à embarquer de plus en plus de monde donc, sur cette vague-là. Malheureusement, la techno, c'est un style de musique qui est souvent répétitif, qui n'a pas tout le temps de paroles. Et le message que veulent faire passer les artistes à travers cette musique est souvent mal compris ou incompris, souvent mal interprété et qui peut conduire à certaines déviances. Et ces déviances, en fait, pour le style musical, pour la techno, peuvent être vraiment, vraiment très dangereuses. Elles peuvent conduire à une mauvaise interprétation et bien sûr au désarroi des artistes, à des divergences. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est d'essayer de retourner aux origines de cette techno-là, de retourner donc à ces origines qui proviennent donc de Détroit, mais aussi de Chicago, de ces différentes villes, d'essayer de retourner à ces origines et de pouvoir éduquer notre nouvelle population, de pouvoir leur faire prendre conscience que la techno, ce n'est pas seulement du boum, 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 un rythme répétitif, mais qu'il y a vraiment des émotions qui passent derrière cette musique-là. Ces émotions, comme j'ai pu le dire, sont difficiles à transmettre, et je pense que le moyen de pouvoir les transmettre d'une façon plus claire au public, ça peut passer par l'art. Parce que l'art, ça pourrait venir matérialiser cette musique qui est seulement sonore et qui n'est pas matérielle. Donc l'art, ça pourrait permettre donc aux musiciens de pouvoir transmettre leur message d'une façon plus simple à leur public.
Et alors, justement, vous parliez tout à l'heure des besoins de l'univers techno en graphisme, etc. Est-ce que les t-shirts, par exemple, c'est un réel besoin ? C'est vous qui avez gratté un peu pour essayer de développer autre chose ? Et est-ce que du coup les DJ, enfin les Icos étaient directement ouverts ou il a fallu quand même un peu, on va dire, travailler avec eux pour qu'ils se familiarisent à l'idée ?
Je pense qu'à l'origine, la techno voulait se détacher de tout ce milieu commercial. Je pense bien sûr à Underground Resistance, qui était un label indépendant qui était à Détroit et qui se détachait de tout ce système commercial. Bien sûr, avec l'importance actuelle de la techno, automatiquement, on ne peut pas faire abstraction de ce milieu commercial et on est obligé un petit peu de partir, de faire avec. Du coup, le réel besoin qu'avaient ces artistes-là, c'était en fait de pouvoir transmettre d'une façon plus simple leur message et que le message soit bien compris par le public. Ça, c'est vraiment le réel besoin des artistes. Il y avait un autre besoin qu'on a pu identifier, c'est que les fans de techno actuels n'ont pas de réel moyen de pouvoir s'exprimer en tant qu'amoureux de techno. Ils peuvent s'habiller, comme on peut le voir à Paris, de façon extravagante ou des choses comme ça. On peut remarquer ça dans des endroits comme la Concrète ou autre. Mais il n'y a pas de réel moyen pour eux de s'exprimer comme un amoureux de la techno. Donc ça, c'était l'identification de ce deuxième besoin. La troisième chose qu'on a pu identifier, c'est qu'il y a une réelle solidarité dans le monde de la techno et qui peut être exactement la même dans le domaine de l'art. Cette solidarité où les artistes d'aujourd'hui en fait contribuent à la naissance des artistes de demain, les aident et leur permettent donc de pouvoir se produire et de pouvoir progresser, puisque les artistes de demain sont inspirés par les artistes d'aujourd'hui, et que si la musique part dans une direction, c'est à cause ou grâce aux artistes d'aujourd'hui et à l'interprétation des artistes de demain. Donc il y avait ce besoin, comment faire en sorte que les artistes d'aujourd'hui puissent contribuer à la naissance de nouveaux artistes et puissent contribuer donc à l'évolution de ce genre, et que ça soit la techno mais également l'art graphique.
Thibaut,
comment vous rassemblez du coup toutes ces différentes personnes? C'est vous qui les démarchez individuellement ou ça passe par bouche à oreille, un peu des deux?
Alors justement, je vais en profiter pour passer un bonjour à Astrid Lemaire, qui est une fille que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui m'a rejoint sur le projet il y a quelques temps. Donc elle s'occupe de toute la partie qui est relations avec les musiciens, relations publiques et commerciales. Moi, je m'occupe plus de la partie administrative et de la partie artistique. Donc Astrid Lemaire, cette personne est basée sur Paris, puisque moi, je suis actuellement sur Angers et du coup un petit peu loin donc, de toute cette scène techno qui se passe plutôt sur la capitale. Donc ça a marché plutôt au bouche à oreille. Je pense que ça a marché plutôt au bouche à oreille. Astrid a pu en parler à ses amis DJ, vu qu'il y a une réelle solidarité, comme j'ai pu le dire, entre tous les DJ. C'est vrai que le mot s'est passé vraiment très très vite. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les informations courent à une vitesse vraiment énorme. Et du coup, c'est plutôt du bouche à oreille. Après, j'ai pris quelques initiatives de contacter certains DJ. La chose qui est vraiment fantastique aujourd'hui, c'est que 100% des DJ, des collectifs et des labels que j'ai pu contacter sont tous intéressés par le projet et en attente de collaboration.
Alors, est-ce que l'idée derrière, c'est de dire que quelque part, et évidemment, la musique, c'est de l'art, et donc que la techno, c'est de l'art aussi?
Alors, la musique, c'est une forme d'art. Et quand je parle d'art, quand je dis que je veux réunir par exemple la musique techno et l'art de l'autre côté, cet art dont je parle, c'est l'art graphique. L'art graphique qui est en train de prendre différentes directions aujourd'hui, puisqu'il y a l'art graphique, le dessin, mais il y a également différentes formes d'art, comme par exemple le mapping, qui est un art visuel et plutôt électronique. Il y a maintenant des personnes qu'on peut appeler aussi VJ. Ces VJ, c'est des personnes qui sont donc ajoutées au DJ lors des prestations scéniques et qui projettent, donc qui s'occupent des lumières, de toutes ces choses-là. C'est vrai que l'art, en fait, prend différentes directions, aussi bien que la techno, dans son style, prend différentes directions. On peut voir différents styles de musique qui découlent de la techno. Et quand je parle de art, je parle de art graphique, mais bien sûr au sens général.
Thibaut, pour la distribution, vous allez vous baser que sur Internet ou vous allez passer par des shops aussi indépendants ou des réseaux?
Alors, c'est là où je vais pouvoir parler un petit peu des différentes offres que nous avons. Donc, le cœur de ce projet-là, comme on a pu le dire juste avant, c'est la collaboration. La collaboration avec, d'un côté, une entité musicale. Quand j'ai entité musicale, c'est aussi bien un DJ, un label, un collectif ou un club, donc spécialisé dans la techno. Et cette collaboration se fait donc avec un artiste graphiste autour d'un projet commun. Par rapport... Excusez-moi. Par rapport donc à cette offre, l'offre de collaboration, l'objectif est de faire collaborer donc ces deux univers autour d'un projet graphique commun qui est destiné donc à être imprimé sur des t-shirts et sur des sweatshirts. Et ces produits seront d'une très très bonne qualité. Donc je préfère garder l'exclusivité de la vente de ces produits et ces produits se vendront exclusivement sur mon site internet qui devrait ouvrir dans quelques mois, 2 mois pour être précis. Et cette offre, donc Musart Collaboration, s'oppose à une autre offre qui s'appelle Musart Collection. La différence avec Musart Collection, c'est qu'il n'y aura pas donc une entité du monde de la musique avec un artiste graphique qui vont collaborer sur le dessin de visuel, mais il y aura un artiste graphiste qui va créer 3 visuels qui constitueront une collection à son nom sur le thème de son choix. La première collection a été créée par Gumo, qui est un tatoueur sur Paris qui expose maintenant donc dans différentes galeries sur Paris. Il a fait une collection avec un visuel autour du vinyle, un autre autour des platines vinyle et un dernier autour des casques audio. Donc ça, c'est les 3 visuels qui constituent sa collection. Il y a une autre collection qui est en cours et qui sera faite par Mr. Walter qui est autour du thème de l'enceinte, du Radio Blaster de l'enceinte. Donc ces 3 pièces sont vendues bien sûr sur mon site internet mais également dans différents magasins autour de la France et aussi au cours d'événements.
Vous voulez accompagner chaque collaboration d'un reportage vidéo. C'est important aujourd'hui de développer justement l'aspect des vidéos. C'est ça qui rend viral un événement.
Ce reportage vidéo, en fait, a pour but de donner une vraie valeur à nos t-shirts. Ce reportage vidéo sera centré autour des géniteurs de ce produit-là, les artistes qui auront collaboré, qui auront travaillé sur ce visuel de collaboration. Donc, il y aura le reportage vidéo qui viendra accompagner ce visuel et qui permet aussi aux artistes de pouvoir inviter leur public dans leur univers, de pouvoir leur faire rencontrer, enfin de pouvoir leur montrer dans quel contexte ils créent, dans quel contexte ils enregistrent leur musique, mais également permettre au public de pouvoir mieux comprendre leur message musical ou artistique, comme on a pu le dire juste avant, qui était un des points que nous voulons résoudre. Un des points que nous voulons résoudre. Ouais.
Alors, vous organisez une soirée de lancement, et là, je crois que je me tourne plutôt vers Nico. Ce sera le samedi 21, vous allez prendre possession du club Dorémy, dans un système de navettes, etc. Vous pensez ramener combien de personnes? Vous avez déjà une jauge en tête ou pas du tout?
On a tablé sur 450 billets qui sont actuellement disponibles sur le site de Resident Advisor. Donc, normalement, il n'y a pas de billets supplémentaires, donc c'est pour ça, prenez-les vite. 450 personnes. Le club, normalement, est composé de 3 salles. On va ouvrir la grande salle du haut. Et voilà.
Et alors, ce type de soirée, c'est juste une soirée de lancement ou vous allez être amené à en faire quelques-unes? Ça va revenir?
Ouais, c'est la soirée de lancement, mais Rico, donc le semestre prochain, va rester sur Angers, donc dès janvier. Et ça va être alimenté tous les mois, tous les deux mois, de soirées Musart, avec d'autres thématiques, d'autres invités. Ça s'arrête pas là, non. Thibaut. C'est la première d'une longue série.
Ouais, il y a moyen de présenter le line-up un peu de la soirée?
Ouais, donc le line-up, on va inviter Shlomo de Tapion Sound System et également Resident Concrète. Tapion Sound System qui est aussi le label de Roman Poncet, entre autres. AWB qui est signé aussi sur Tapion Sound System, qui est le founder avec Shlomo. Milan Kobar de Why Are We Here? Et en finale, un artiste Mounou qui est signé sur le label Musart, une pure production Musart qui entamera les hostilités.
Et alors justement, Mounou, c'est le premier qui a signé chez Musart ou pas du tout?
Alors Mounou, pour raconter l'histoire, c'est mon plus vieil ami d'enfance. Je le connais depuis que j'ai un an, il a un an de moins que moi, je l'ai vu naître et on a grandi ensemble. Il est parti en Australie pendant plusieurs mois où il a pu mixer dans différents clubs en Australie, il a pu progresser. C'est un mec qui est fan de techno, qui a aussi écouté énormément de psytrance, qui a une ouverture musicale vraiment extraordinaire. Il s'intéresse vraiment à tout et se donne à fond dans la musique. Il a eu un diplôme en opticien, mais vraiment maintenant il se donne à fond dans la musique, il fait de la production. Ses productions sont soutenues par des bons artistes et vu que c'est un de mes amis, j'aimerais bien lui donner sa chance puisque ça vaut vraiment le coup, c'est un très bon artiste.
Ouais, c'est à peu près logique. Il est basé où?
Il est sur Pau, dans le 64, donc à côté de Biarritz.
Donc ta région d'origine.
Exactement, et, la plus belle.
Et bien tout de suite, on va écouter ce que ça donne. La chanson, c'est The Walking Techno. We'll be right back. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus. On poursuit cette émission avec Octave. Octave, d'habitude, tu es chroniqueur. Là, tu as une double casquette, puisque tu fais partie des étudiants des Beaux-Arts qui sont allés aux Assises pour faire des croquis du procès Bonne Maison, des croquis relayés par France Inter, d'ailleurs. Comment ça s'est passé? C'était une commande de la part de quelqu'un? Vous avez vous-même lancé le projet? Il y a eu un soutien de l'école?
Bah justement, on a parlé des Beaux-Arts au début, et donc le plus grand intérêt en fait à être aux Beaux-Arts, en dehors du fait qu'en fait c'est un atelier ouvert donc pour tous les étudiants, c'est que alors que personne ne nous connaît, on a une personne morale qui nous représente et qui a un certain intérêt pour d'autres personnes. Donc là, c'est France Inter qui a demandé aux Beaux-Arts s'il n'y avait pas des étudiants qui voulaient venir faire des croquis pour le procès Bonne Maison. Bon, je suppose que déjà, c'est parce qu'on n'a pas à les payer, les étudiants. La visibilité, ça nous va très bien, on en est super contents et ça nous suffit largement. Mais ce n'est pas les seuls, il y a beaucoup de projets d'offres justement qui sont proposés aux Beaux-Arts pour les étudiants et sont des choses en gros... On a une newsletter en fait chaque semaine, on les check, s'il y a des trucs qui nous intéressent, on les relaie aux Beaux-Arts qui font passer l'information, ils nous mettent en relation et ensuite on se débrouille.
Donc c'est directement France Inter qui est venu vous chercher en envoyant un petit mail, quoi.
Exactement.
Et alors, avec France Inter, vous étiez en contact avec qui? Une journaliste, un journaliste en particulier, avec le rédac-chef, avec quelqu'un de la communication? Ça s'est passé comment?
Alors, on a été en contact en fait avec la journaliste qui s'occupe donc de tout ce qui est juridique et qui fait de la radio d'ailleurs. C'était une journaliste radio. Alors, je pourrais pas te redonner son nom comme ça directement. Je me souviens qu'elle s'appelle Charlotte. Je me souviens plus de son nom de famille. C'est une horreur. Charlotte, si tu m'entends, je suis désolé. Mais donc voilà, on était en contact avec cette journaliste qui, elle, s'occupait du procès Bonne Maison avec France Inter, qui relayait tout ce qui était tweet et qui écrivait un ou deux articles par jour sur le sujet avec les comptes rendus du procès.
Thibaut,
comment vous l'avez vécu le procès de l'intérieur du coup? Toi, c'était ta première fois dans un tribunal comme ça?
Alors, faut savoir, bah, personnellement, j'aime beaucoup les tribunaux. Ça peut paraître bizarre, mais j'y ai déjà passé quelques temps, non pas derrière la barre. Hein,
tout le monde se posait la question.
Mais parce que c'est pour moi, c'était une sorte de théâtre de guignol pour adultes très intéressant, notamment parce que c'est la société dans laquelle on évolue. Donc, enfin, c'est pour ce genre de plan que je suis aux Beaux-Arts, très honnêtement. Et donc, c'était très intéressant, surtout que c'était le procès Bonne Maison, pour les auditeurs qui ne savent pas trop ce que ça a été, s'il y en a encore. C'était le procès de l'euthanasie, c'est-à-dire que c'était le procès, alors qu'il y avait la loi Léonetti qui allait changer, donc la loi sur l'euthanasie qui allait passer, ou en tout cas être voté, c'était donc là une affaire d'euthanasie, le docteur Bonne Maison qui a euthanasié 7 personnes, et donc il a été une première fois acquitté à Pau, d'ailleurs, et ça c'était le procès d'appel du docteur Bonne Maison. Donc c'était, sur un point de vue légal, mais aussi éthique, très intéressant, et c'était pour ça que ça valait le coup d'y aller, quoi.
Et justement, comment on aborde ce type de dessin? J'imagine que c'est pas tout à fait la même manière d'aborder ce type de dessin que quand on fait une nature morte, quoi.
C'est sûr. Alors là-dessus, bah la grande référence qu'on a tous checkée d'ailleurs avant d'y aller, c'était forcément Daumier, un dessinateur de presse du 19e. Et alors là-dessus, France Inter a été super sympa. D'ailleurs, je les remercie de ma part, mais aussi de la part de tous les autres étudiants aux Beaux-Arts, parce qu'ils nous ont laissé libres de faire ce qu'on voulait. Donc on a tous abordé le traitement de façon différente. Il y en a certains qui ont pris les témoins un par un, d'autres dont je fais partie qui ont essayé de choper l'ambiance globale du tribunal, c'est-à-dire rentrer dans un dessin un peu plus contemporain. Ça dépendait vraiment. Le seul truc qu'on nous demandait, c'était de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Et la journaliste choisissait ensuite les dessins qu'elle voulait mettre en avant, en essayant d'être impartiale, mais en fonction de du contenu dont elle avait besoin pour illustrer son article.
Et alors, tu travailles avec quoi? Tu mets de la couleur, tu fais de la peinture, tu travailles uniquement au fusain, au crayon gris, je sais pas, il y avait un peu de tout?
Mais alors, je vais encore une fois remercier France Inter, qui nous a donné des cartes de presse. Et donc, nous avons pu accéder au box de presse qui est quand même un petit peu plus grand, plus près. Et donc, ça permettait justement de s'étaler. Du coup, on a pu travailler avec de l'aquarelle. Certains ont même tenté la gouache, je crois, de l'encre de Chine, du crayon, du fusain, du pastel. On a essayé de varier au maximum les techniques pour avoir une vraie floraison sur France Inter, quoi, pour que le pro... Parce que c'était pas seulement de la visibilité, si on y était, c'était aussi pour faire le travail bien. Et on voulait quand même que France Inter soit content, qu'ils en sortent heureux et peut-être qu'ils retentent l'expérience avec d'autres écoles de Beaux-Arts. C'était la troisième fois qu'ils le faisaient en partenariat et ça serait bien s'ils pouvaient continuer parce que c'est une super expérience quand même.
Thibaut,
ça t'apporte quelque chose, toi, du coup, à la fois artistiquement mais en tant que citoyen?
Alors, artistiquement, ça a pu m'apporter quelque chose parce que bon, moi, mon truc, enfin ma came aux beaux-arts, c'est quand même le dessin, donc c'était une bonne façon de tenir le, de m'entretenir le, la main avec des gens en plus en mouvement. C'est pas souvent qu'on a des gens qui sont à peu près immobiles, mais en même temps pas tout à fait en direct, et avoir une certaine pression pour dessiner, être forcé de dessiner. Ensuite, en tant que citoyen, ça m'a effectivement apporté quelque chose, surtout d'un point de vue éthique, dans la mesure où, enfin, à mon sens, de ce que j'ai vu du procès, ça ne se jouait absolument pas sur le plan éthique direct. C'est-à-dire, on ne posait pas la question « est-ce qu'il a bien fait d'euthanasier ces gens-là ?» La réponse était, entre guillemets, oui. Si l'affaire avait lieu en Belgique, il n'y aurait jamais eu, justement, d'affaire. Mais, donc, du coup, mais sur le plan de l'éthique légale, c'est-à-dire que la loi ne suivait plus la morale des citoyens. Et en ça, c'était très intéressant. C'était une sorte de revirement de situation de la société et comment le traiter, donc déjà d'un point de vue global de communauté, mais aussi pour nous au quotidien. Qu'est-ce qu'il se passe quand on est en conflit avec l'autre directement pour une histoire de morale qui est soit un peu arriérée, soit un peu trop en avant. Donc, je trouvais ça très, très intéressant.
Alors, toi qui étais justement au cœur du procès, le traitement médiatique qu'il y a eu autour, tu l'as senti comment ? Tu l'as trouvé comment ?
Alors ça, pour le coup, je l'ai trouvé barbare. Pour une raison très simple, c'est quand on voit le docteur Bonnemaison qui quand même a été psychologiquement très atteint par, sa, par toute l'affaire, il a quand même essayé, fait une tentative de suicide à la sortie du procès, le voir sous, alors qu'il a déjà eu plusieurs péripéties auparavant avec la première fois où il a été jugé, le voir rentrer avec tous les journalistes qui se ruent sur lui, qui le prennent en photo, qui le traitent comme une bête de foire, j'ai trouvé ça un peu, entre guillemets, navrant, même si bon, il faut bien faire son beurre, mais de là à faire passer un être humain pour un animal en cage, je trouve ça un peu déplacé, entre guillemets.
Ça t'a dégoûté des journalistes ou de ce type de journalisme ?
Pas plus... Je n'ai pas plus de dégoût pour les journalistes que pour le reste de l'espèce humaine, au final. Hein,
carrément. Thibaut ?
C'est le genre d'expérience que tu aimerais refaire, du coup, ou tu vas t'arrêter cette fois-là ?
Ah, faire, faire et refaire. D'ailleurs, France Inter, si vous m'écoutez, la prochaine fois que vous voulez bien me relaisser une bio des liens de mon choix sur votre site web et travailler pour vous, alors appelez-moi, je cours, j'arrive, je veux bien faire aller à l'autre bout de la France, traverser l'Atlantique à la nage, il n'y a aucun problème, foncez. Hein.
Vous avez été combien à participer au total des étudiants des Beaux-Arts à être sur ce projet-là ?
Au total, on a été une douzaine. Alors, il faut savoir qu'on a été une dizaine de première année et deux personnes de deuxième année, pour une raison qui est assez simple, c'est que les premières personnes à qui ils en ont parlé, c'était pendant la réunion d'orientation, en début d'année, enfin, d'orientation, pardon, d'information, et donc c'était pour les premières années. Et ensuite, les New Stellers, tout le monde ne les lit pas forcément. Du coup, on était trois de première année à vouloir vraiment le faire. On a fait un peu tourner l'info, donc forcément, plus à des gens qu'on connaissait à l'époque, vu que ça s'est passé en début d'année. Donc des premières années, mais il y a quelques deuxième années, deux qui...
Donc en fait, le projet a été porté par les premières années, quoi. C'est quand même pas trop mal pour des premières années qui débarquent, qui arrivent un peu, ça y est, vous posez vos bases, quoi.
Bah, il vaut mieux, hein. Au final, vraiment la façon dont je vois les Beaux-Arts, c'est qu'on a 5 ans pour faire quelque chose, on en fait ce qu'on veut. Alors autant commencer le plus vite possible, surtout si ça nous éclate, quoi.
Et combien de croquis ou de dessins ont été diffusés, relayés sur le site de France Inter ? Ça se passait comment ? C'était tous les jours ? En tout cas, à chaque jour de procès, ça s'est passé comment, la diffusion ?
Alors, donc la diffusion, on était généralement par équipe de 2 ou 3, parce qu'on ne pouvait pas avoir plus de 2 ou 3 cartes de presse, donc on était 2 ou 3 dans la salle d'audience. Il y avait une salle de télécommunication pour les jours où on était plus, mais globalement, c'est resté à 2-3, parfois 1. Donc on fait du dessin. Personnellement, sur une audience de 3-4 heures, j'en fais 7 ou 8. Mais par contre, généralement, sur le site de France Inter, il y en avait 4 ou 5 qui étaient relayés sur le total de tout ce qui avait été fait. Certains étaient gardés et relayés d'autres jours au besoin. Donc voilà, c'est une masse de travail assez importante et on prend la crème de la crème.
Thibaut ?
Vous allez exposer ces dessins à partir de demain. L'exposition, elle était prévue en premier lieu ou elle s'est greffée au projet en cours de route ?
Alors, ça, je ne sais pas si je devrais en parler, parce que je vais me faire taper sur les doigts. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on était 3, on voulait absolument faire notre bouit-bouit. On nous a dit, vous n'êtes pas assez, vous êtes en première année, vous ne pouvez pas rater autant de cours. On a donc récupéré du peuple. Donc les gens ont dit, oh, c'est bien, ils font leur projet. Alors là, le Figaro et West France s'en sont mêlés, ils ont voulu nous interviewer. À partir de là, le directeur de l'école a trouvé ça génial, on allait faire une expo, machin. Donc l'expo s'est montée effectivement après le procès.
Donc finalement, grâce aux journalistes qui gravitaient autour du procès, etc., et qui ont fait remonter l'info, finalement, t'as pas un peu l'impression d'avoir été, dans un premier temps, abandonné par l'équipe pédagogique qui est autour, et puis récupéré derrière ?
Alors, j'ai pas eu l'impression d'être abandonné, dans la mesure où au Beaux-Arts, c'est un peu du système D pour tout le monde. Ça marche aussi pour l'administration et l'équipe pédagogique qui lutte tant bien que mal, parce que c'est pas facile. C'est un joyeux bordel. Par contre, sur la fin, j'ai eu une légère sensation de récupération. Je suis peut-être le seul, je ne parlerai pas au nom des autres pour ce coup-là.
Tu peux parler au nom des autres, ils n'ont pas voulu venir alors.
Oui, effectivement, ils n'ont pas voulu venir, donc du coup, je vais parler au nom des autres. On n'est pas contents, hein, voilà.
Nico et Rico, c'est le type d'expérience qui vous aurait intéressé de voir justement un procès de l'intérieur, un procès d'une aussi grande ampleur, de voir comment ça se passait. Je ne sais pas qui veut répondre.
Alors moi personnellement, en faculté de droit, j'ai eu l'occasion d'assister à un procès, mais pas dans ce contexte-là. Et je pense que le contexte dans lequel ils ont pu assister, dans lequel ils se trouvaient, était vraiment différent. J'admire énormément ce travail, en tout cas, ce travail de dessin, ça paraît pas grand-chose, mais je pense que l'ambiance elle, devait être vraiment compliquée, assez bizarre, et vraiment, je pense que, non, c'est, enfin,
je pense que... Ouais, pour ma part, je pense que c'est un super projet. Ça permet de rapprocher deux domaines qui ne sont pas forcément liés au premier abord.
Voilà.
L'illustration et le dessin peut parfois aussi avoir bien plus de choses à dire qu'un long discours, comme on dit. Et ça peut aussi rendre toute cette affaire plus accessible pour tout le monde, des grands comme des petits, comme on dit.
Octave, humainement, je suppose que c'est quelque chose qui marque. Toi, tu penses que tu seras marqué à vie par ce procès ou finalement ça va rester un petit moment dans ton esprit et ça va s'atténuer petit à petit ?
Bah, ce procès, personnellement, il m'a appris deux choses qui, elles, je pense, m'ont marqué à vie. C'est globalement, je veux travailler dans la presse, je veux faire du dessin de presse, pas forcément du dessin dans les tribunaux, etc., mais je veux faire du dessin de presse. Ça m'a réconforté et renforcé dans cette idée. Ça, c'est pour la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a appris une valeur humaine très importante. C'est que lorsqu'on a un petit bout de papier avec marqué carte de presse dessus ou une paperasse qui donne un certain statut, les gens vous regardent différemment et ont un certain respect pour vous. Voilà. Ce sont deux choses qui m'ont extraordinairement marqué. Et je pense que je n'oublierai pas cette expérience avant un bon bout de temps.
Alors, justement, pour toi, le dessin de presse, ça représente quoi ? C'est toujours, on va dire, plutôt dans l'humour, dans la critique de ce qui s'est passé ? C'est aussi simplement relayer l'information d'une autre manière ? C'est quoi le dessin de presse pour toi, quoi ?
Pour moi, le dessin de presse, c'est quelque chose d'aussi, entre guillemets, vague que le travail de journaliste. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est fait pour relayer de l'information. Mais il y a mille façons de le traiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer, par exemple, Pétillon et l'équipe d'Arakiri. C'est dans les deux cas, il y a du dessin de presse, mais ce n'est pas le même. En plus, Pétillon est un très mauvais exemple parce que Pétillon est dans la même vibe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de ça peut être drôle, ça peut ne pas être drôle, c'est une façon de relayer l'information comme une autre, c'est un média et on peut en faire ce qu'on en veut. Donc c'est, pour moi, un dessin de presse, c'est du dessin journalistique.
Et toi, ce qui t'intéresserait, c'est de traiter justement l'information dans quel sens ? T'es plutôt Charlie Hebdo ? T'es plutôt, pour donner un exemple local, Nono qui est dans l'Ouest de France ? Ou je sais pas ?
Alors moi, j'ai « I have a dream ».
C'est beau.
Je voulais commencer comme ça. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je trouve que la presse satirique est en train de mourir en France. Je ne parle pas des événements de l'année dernière. J'entends depuis la fin de Charlie Hebdo dans les années 80. Philippe Val, non. Voilà, non. Hein. Donc mon rêve serait de pouvoir remonter une sorte de harakiri post-moderne. Tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, parce que j'en ai assez d'entendre des vieux nous dire que c'était mieux avant, que les jeunes devraient être plus insouciants. Moi, je pense qu'on devrait s'ouvrir le ventre en se fendant la gueule. J'aimerais ramener ça. Voilà.
C'est-à-dire être aussi totalement indépendant et avoir ses propres financements.
Exactement. Excusez-moi les gars pour nos deux invités, mais je hais, je honnis la pub et la mode d'une force terrible. terrible. Comme dirait le professeur Choron et Cavana, la pub nous prend pour des cons.
Merci beaucoup, Octave. On revient dans 3 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de Campus, vous êtes toujours dans le sous-marin et à l'instant vous venez d'entendre Joe Pilgrim and the Ligerians avec la chanson Open the Gate. Et bah tout de suite, il est 19h46, c'est l'heure de parler cinéma.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors, Octave va changer de casquette, voilà, il passe de l'interviewé au chroniqueur. Visiblement, cette année, le Festival de Cannes a déraillé, hein. Fini les longs films d'auteur, place au documentaire animalier. Le homard est à l'honneur pour l'édition 2015 avec The Lobster. Et puis, Octave, tu vas nous blablater à propos de ce formidable animal qui en a fait baver plus d'un.
Pierre-Louis, excuse-moi, mais là, je crois que t'as rien compris, en fait.
Attends, comment ça, j'ai rien compris?
Oui, oui. Non, mais ça a le nom du homard, ça a le goût du homard, ça ressemble à du homard, mais c'est pas du homard. Yorgos Lanthimos est un gros, gros déconneur. Le jury de Cannes s'est jeté sur son dernier film en salivant, mais ils sont sortis de la salle le ventre vide. Par contre, ils ont dû en prendre plein les mirettes, puisque The Lobster a reçu le prix du jury et la Queer Palme. Cela fait donc 5 prix maintenant pour le réalisateur grec, qui les mérite amplement. Et il n'en finit pas d'étonner, son dernier film part d'une idée toute simple, mais très bien traitée. Bilan, lorsqu'un individu devient célibataire, il dispose de 45 jours dans un centre hôtelier pour trouver un nouveau partenaire. Passé ce délai, il est changé en animal. C'est bon, c'est fin, ça se mange sans faim, et moi, je me suis régalé.
Bon, tu vas encore nous faire mariner longtemps, si vous me passez l'expression ?
Eh bien, Pierre-Louis, je suis face à un dilemme. The Lobster peut être vu de plein de façons différentes. Une critique capitaliste, l'accélération de la société moderne, la rupture des relations humaines. Le film est surprenant, très surprenant. Or, si j'en parle, forcément, ça gâche la surprise. Après une nuit blanche de réflexion déontologique, j'ai décidé de laisser tomber. On ne parlera pas de The Lobster aujourd'hui. Non. Ce mardi 17 novembre, nous allons plutôt parler cuisine. Au menu, le homard ébouillanté aux fines herbes façon Lanthimos.
Oula, oula, ça sent un peu le hors-sujet tout ça, mon cher Octave.
Pas tout à fait, pas tout à fait. Tout d'abord, il vous faut 4 beaux homards, mâles ou femelles. Mais surtout, pas de pinces transgenres. The Lobster est binaire, tout rentre dans des cases jusqu'à créer un formidable malaise. Par-dessus, rajoutez environ 40 minutes de musique classique kitschouille. Pour la sauce, prenez, allez, 3-4 cuillères à soupe de cynisme et en assaisonnement de l'humour noir au 5B avec un mélange personnel d'herbes. Choisissez vous-même. Le homard façon Lanthimos contient toute sa beauté dans la personnalité du chef.
C'est tout bon pour les papilles gustatives, en fait, tout ça.
Exactement. Avant de commencer, vérifiez l'éclairage de votre plan de travail. Tout doit être naturel. Démaquillez également les crustacés. Vos invités seront perturbés par ces côtes brisées. Ensuite, ébouillantez les homards. Lancez la musique dans le même temps pour créer une ambiance tragique, troisième degré, un peu hipster. Si votre futur repas était bien choisi, il jouera parfaitement la suffocation. Quel jeu d'acteur ! On en aurait presque pitié. C'est à cela que l'on reconnaît la spécificité de la recette de Lanthimos. On s'y croirait. Une fois cuit, désossez-le. Faites une belle sauce en mélangeant le cynisme et l'humour noir avant de la verser délicatement sur la chair tendre et vulnérable. Rajoutez votre mélange de fines herbes. Contemplez maintenant. Prenez une photo pour votre compte Instagram en faisant très attention au cadrage. Toute photo ou vidéo que vous prendrez de votre homard doit être sublime. Lanthimos fait très très attention au cadrage. Maintenant, foutez le tout à la poubelle. Votre homard est dégueulasse, car seul Yorgos Lanthimos peut faire du Yorgos Lanthimos. Si vous voulez goûter sa formidable tambouille que vous n'arriverez jamais à reproduire, dites-le vous bien, il organise des dégustations tous les jours aux 400 coups. Évitez les groupes de potes, hein. Allez-y seul si vous êtes célibataire ou à deux si vous avez quelqu'un, l'expérience n'en sera que meilleure.
Merci beaucoup Octave pour cette magnifique recette. Rico, Nico, le film, vous en aviez entendu parler, The Lobster ?
Ouais, moi je suis allé le voir la semaine dernière, j'ai adoré. Scénario très bien ficelé, si je puis dire, je reste un peu sur ma faim, à la fin, pour continuer dans ta rhétorique, mais ouais, non, à conseiller à voir.
Rico ?
Je tiens compte de ton conseil, j'irai sûrement le voir, mais pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu.
Et voilà, et ben, le conseil de Campus et d'Octave, allez voir The Lobster. Et évidemment, hein, on le répète, aux 400 coups, allez pas dépenser tous vos sous au Gaumont. Voilà, ça, c'est fait. Il est l'heure de la bulle sonore et à l'honneur, et bien, ce soir, c'est Festival.
Bonjour et bienvenue dans Festival. En cette rentrée, l'équipe de Festival a totalement été remaniée. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Margot. Bonjour Margot.
Bonjour Camille.
Et puis de l'autre côté, dans la régie, j'ai Paul. Bonjour Paul.
Bonjour.
Donc oui Margot, qu'est-ce que tu as à dire sur le premier album The Adversary de Tyler Tis Murder ?
Moi, j'ai eu un petit coup de cœur quand même, je dois l'avouer, hein, avec un petit morceau bien sympathique. qui est Laceration Penetration.
Oh, poésie, bonsoir.
Bonsoir.
Baudelaire est présent ce soir.
Oui, tout à fait. Non pas que je me sois découvert de soudaines inspirations sadomasochistes, hein, ça fait longtemps qu'on est au courant, mais, oui, j'aime les blagues de merde, mais simplement pour sa puissance.
Oui, la puissance, il y a le côté d'Arkuna, il y a énormément. Et ouais, c'est vrai que Tiger Tooth Murder, à ce niveau-là, c'est sympa, même s'ils ne sont pas les amis de la poésie.
En tout cas, ça envoie du lourd, et je propose qu'on s'écoute ça tout de suite.
Voilà, si vous avez envie de perdre un tympan, et ben vous pouvez retrouver Camille, Margot et Paul pour leur première ce soir. C'est de 23h à minuit. Avant de se quitter, Rico, tu avais un petit message à faire passer.
Ouais, alors je voulais passer le bonjour à notre ami Benoît qui n'a pas pu se rendre au studio aujourd'hui, qui avait un empêchement et qui nous aide à travailler sur le projet Musart. Comme Astrid, il fait partie de l'équipe et bien sûr, on vous donne tous rendez-vous samedi. Le bonjour à tous les SK également et à tous mes amis.
Et donc, pour retrouver toutes les infos sur le projet Musart, bah, soit vous allez sur leur Facebook, soit vous allez sur notre podcast et vous retrouverez le lien. Évidemment, on vous met tout ça comme d'habitude. Et puis, bah, malheureusement, c'est déjà l'heure de refermer la soupape du sous-marin. Du coup, on remercie évidemment Rico et Nico d'être passés dans le studio.
Merci longue à vous. Merci beaucoup.
Mais de rien. Longue vie au label Musart. On rappelle, la soirée de lancement, c'est le 21. Courez, prenez vos places. Merci à toi, Octave, et ta fameuse double casquette ce soir.
Quand tu veux.
Et puis, on remercie également Sophia, qui nous a fait un très bon travail de reportage. Merci beaucoup Thibaut, et on n'oublie évidemment pas Antoine à la réalisation et Étienne à la programmation. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Bonne soirée à tous.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.